Bonjour Marc.
Salut Chloé.
Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode.
Ouais, moi aussi.
C'est Nietzsche qui disait que la vie sans musique serait une erreur. Toi qui comptes plus de 4000 plongées à ton actif, peux-tu nous parler de l'idée fausse numéro 7 ? L'océan est un monde de silence. On entend quoi sous la surface de l'eau, Marc Mortelmans ?
Ah, j'adore ta question. Et en plus, c'est amené par Nietzsche que j'adore. Cette expression est extrêmement fausse, mais elle vient de ce fameux commandant Cousteau qui a trouvé ce titre pour ce film qu'il a réalisé avec Louis Malle en 1956 et qui a obtenu à l'époque le documentaire du meilleur film aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est un film qui est irregardable. Ce qu'ils font dedans, et ça, c'est un message d'espoir que je voudrais donner, c'est aujourd'hui, on fait plus du tout les documentaires de cette manière complètement conne et aussi cruelle. Et tu vois, malgré tout le bien que je pense du commandant Cousteau, il faut quand même rappeler qu'il a réussi à faire un film, lui, qui a eu la chance, le privilège, mais aussi la charge d'être le premier pionnier des océans à aller dans l'eau. L'histoire retiendra que cette première exploration a été une insulte qui a été faite aux vivants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'amusent à harponner des cachalots. Ils en tuent un en lui passant dessus avec l'hélice du bateau. Du coup, il y a tous les gros requins longimanes du coin qui sont attirés et qu'ils massacrent. À un moment donné, ils font un inventaire de récifs avec de la dynamite. Bon, tu vois, ces façons de faire, qui étaient celles des premiers explorateurs de l'océan, à qui on doit rendre hommage d'avoir rendu ça possible, mais qu'on doit critiquer pour... C'est vrai, ils auraient pu faire autrement, ils auraient pu être plus respectueux du vivant, et ça, ça raconte aussi quelque chose. Bon, aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Maintenant, les photographes, les documentaristes se font les plus discrets possibles, et ça, c'est une bonne nouvelle que je tenais à partager avec toi. C'était quoi le début de la...
On entend quoi sous l'eau ?
Ah oui, on entend quoi sous l'eau ? Là aussi, je vais essayer de faire simple. Il y a un chercheur belge que j'adore, Éric Parmentier, qui est pionnier en la matière, qui au début cherchait les espèces qui faisaient du bruit sous l'eau. Et il a fini par dire que sur 800 familles de poissons aujourd'hui, on cherche les espèces de poissons qui n'en font pas. Les poissons font du bruit avec de multiples modalités. Elles peuvent jouer du tam-tam sur leur vessie natatoire, qui est une poche de gaz qui leur sert à se stabiliser dans l'eau. Il y en a qui font du bruit avec des dents pharyngées. Enfin bref, en gros, ils grincent des dents. Il y a 1000 modalités pour faire du son. Et en fait, c'est très connu. Les pêcheurs, par exemple, y compris en Gironde, pêchent le maigre, donc c'est de la famille des cyanidés, en collant leur oreille sur le fond de leur barque. Parce que, voilà, au moment de la reproduction, ces poissons font beaucoup de bruit. Il faut aussi que tu saches que, tu l'as lu sans doute dans le livre, qu'à une époque, je crois que c'était dans les années 80, il a failli y avoir une guerre entre la Suède et la Russie, parce qu'il y avait des bruits bizarres dans l'eau qu'on prenait pour des sous-marins russes, et en fait, c'était des pets de harengs, ce qui a fait l'objet d'un prix Ig Nobel. Je ne sais pas si tu connais ce prix Ig Nobel, qui est une sorte de satire de recherche sérieuse et voire prometteuse, mais qui sont comiques. Et ces histoires de pets de harengs ont fait l'objet d'un prix Ig Nobel, qui est décerné chaque année. Et voilà, mais le son de loin le plus fort, le plus puissant du vivant, bah tiens, je te pose la question, est-ce que tu te souviens ce que je dis dans le bouquin ?
Je me souviens plus.
Eh bien, le son le plus puissant du vivant de loin, c'est celui du cachalot, qui émet des clics à 230 décibels, à 1 mètre. Ce genre de clics sont au-delà des 194 décibels, c'est-à-dire ce ne sont plus des sons, mais des ondes de choc qui tueraient un homme à 1 mètre. Ça n'est évidemment jamais arrivé. Ce sont des clics qui servent au cachalot à abattre des proies, ce qu'ils parviennent très bien à faire grâce à cet outil incroyable.
J'adore. Pour finir cette première partie, j'avais envie de finir sur l'amour qui fait tourner ce monde, dit-on.
Pourquoi tu dis dit-on ?
Dit-on, bah, je sais pas.
Parce que toi, tu n'as pas eu la chance de le vérifier, je te charrie, bien sûr.
Qu'en est-il de l'idée fausse ? Donc c'est une idée fausse hein, que tu expliques. 39, l'homosexualité n'existe pas dans la nature. Que peux-tu nous dire sur l'amour, l'homosexualité ou la sexualité dans la nature, en quelques mots, quelques exemples ?
Là encore, il y a une histoire de bigger picture, de plan d'ensemble que la plupart des gens ignorent, et c'est bien dommage. Toutes les sexualités, toutes les pratiques, toutes les déviances, toutes les parentalités sont dans le vivant, et bien plus que chez l'humain. Donc, tous ceux qui disent que l'homosexualité n'existerait pas dans la nature parce que, entre guillemets, elle ne servirait à rien, se mettent l'homoplate dans l'œil jusqu'au doigt. Bien sûr que l'homosexualité existe, je donne plein d'exemples dans le bouquin, chez des espèces aussi variées que les oies, que chez les manchots. Enfin voilà, les modalités de parentalité sont infinies, il peut y avoir deux mâles, deux femelles pour élever des jeunes. C'est pas la règle générale, mais ça arrive, ça existe dans des pourcentages qui sont divers selon les espèces. Tu sais, c'est vraiment une erreur cardinale dans mon métier et dans celui des scientifiques, même pour le grand public, cette fameuse pratique de l'anthropomorphisme qui constitue un des 10 chapitres du bouquin. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 75 chapitres, c'est pas tout à fait juste. Il y a 9 chapitres qui sont constitués de 75 entrées. Je voudrais pas que les gens croient que c'est des chapitres. En fait, les entrées font 2 ou 3 pages chacune. Moi, c'est ce que j'appelle un bouquin de chiottes, je le dis avec un grand sourire. C'est typiquement le genre de livre que tu peux ne pas lire de A à Z. Tu peux lire une idée dans le bus et même tu peux en lire 2-3 dans le bus dans un trajet d'un quart d'heure, tu vois ce que je veux dire.
Carrément, je pense que c'est vraiment un livre qu'on peut poser, reprendre, qui nous accompagne, qu'on vérifie une information.
D'où le bouquin de chiottes, c'est-à-dire que tu peux lire aux toilettes.
Je n'aurais pas dit ça.
À chaque fois, tu vois. Non mais moi j'aime bien dire ça.
D'accord.
Non parce que j'aime bien tout ce qui est pratique. Et justement aller à rebours de cette espèce d'élégance qu'on voudrait se donner pour ci ou ça, alors qu'en fait, tu vois bien à travers tous les exemples que, tu vois, il y a justement une entrée sur les déjections des animaux. Il y a plein de gens qui trouvent ça sale et dégueulasse et tout ça, alors que dans le vivant, il n'y a pas de déchets contrairement à nous. Tout est source, tout est ressource pour d'autres espèces qui vivent autour. Alors que nous, c'est aussi un chapitre assez malheureux où j'explique que nous, on prive le vivant de notre urine, de nos fesses, de notre caca, pour parler concrètement. Mais le dernier doigt d'honneur qu'on fait au vivant, c'est au moment des grands adieux. C'est-à-dire que quand on meurt, on a le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire être incinéré, 230 kg de carbone, ou être enterré en tout, 830 kg de carbone. Alors qu'on pourrait tout à fait composter nos corps. C'est une pratique qui serait très salutaire aux vivants. Mais alors que 6 Français sur 10 se disent pour une mort régénérative, eh bien, l'immense majorité de nous autres, quand on meurt, eh bien, c'est un corps, un problème qu'on impose aux vivants qui nous a prêté absolument tout ce qui compose nos corps. Toutes nos molécules sont prêtées par le vivant. Elles devraient pouvoir retourner au grand cycle de la vie. 6 Français sur 10 se disent pour. Mais alors, par contre, à l'heure de composter leur corps, ben là, je pense qu'il y a encore plusieurs décennies qui seront nécessaires pour franchir ce pas qui est encore le produit d'une bête posture liée à plein de choses, la religion, le fait de sacraliser les corps, l'homme, etc. Alors que la meilleure manière de le sacraliser, ça serait de rendre au vivant ce qu'il nous a prêté, tout simplement. Moi, j'espère que quand je mourrai, mon corps pourra être composté. J'espère que des arbres pourront pousser grâce à mes molécules, voilà.
C'est Hugues Moret qui dit qu'il faut réensauvager tout ce qu'on peut. Et je trouve que nos cimetières sont particulièrement déprimants. Je me dirais, on pourrait faire des réserves naturelles sublimes où on passe le reste de notre vie, enfin de notre mort dans ces espaces-là. C'est triste à mourir,
selon
moi.
C'est beau ce que tu dis, le reste de notre mort.
Et je crois que tu as fait un épisode, je ne les ai pas encore écoutés, sur l'humusation. C'est ça, hein, il me semble. Ouais. C'est ce retour à la terre.
C'est exactement ça. L'humusation, c'est le nom qu'on donne à ce compostage humain, parce que tu imagines bien que compostage humain, je fais partie d'une asso que je vais citer, Humo Sapiens, tu vois la référence à humus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière assez étonnante, le mot humanité a la même racine qu'humus, en gros la terre. Tu vois, tu es poussière et tu redeviendras poussière, on le porte dans notre beau nom d'humain, c'est la même racine indo-européenne qui a présidé à la création de ces deux mots. C'est quand même un symbole incroyable, ça fait partie des choses que j'aime rappeler.
Trop bien. Du coup, pour finir sur donc ce chapitre sur l'amour, on apprend vraiment des choses incroyables. Le blob aussi, moi j'ai appris qu'il existait une espèce où il y avait plus de 2 types
types sexuels.
Sexuels.
C'est-à-dire
voilà,
que chez l'humain, il y a monsieur et madame, il y a le mâle et la femelle, chez beaucoup d'espèces aussi. Chez le blob, il n'y a pas 2, mais 720 types sexuels qui ne sont pas tous compatibles. Donc ce qui est un gage de brassage des gènes qui est autrement plus productif que nous.
Passionnant. Nous sommes donc assez étrangers à ce vivant et pourtant nous dépendons de lui comme un maillon à part entière de cet écosystème. Tu parlais de l'hypothèse Gaïa. Les insectes pollinisent ce qu'on mange, les vers de terre et les champignons recyclent la matière organique qui nourrissent nos cultures, les arbres infiltrent l'eau en profondeur dans nos nappes. Notre eau potable, c'est 2/3 issue des nappes phréatiques. La nature nous rend des services écosystémiques, c'est l'idée fausse numéro 45 de ton livre. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire, pourquoi tu la qualifies de fausse dans ton livre ?
Alors là, je dirais, on est à la frontière de la tétrapilectomie, c'est-à-dire du coupage de cheveux en 4. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a des scientifiques inspirés qui, il y a une cinquantaine d'années, ont décidé de combattre le mal par le mal et d'expliquer à celles et ceux qui nous dirigent et à celles et ceux qui dirigent les entreprises que la nature, tu as prononcé le mot nature, on aurait pu y revenir, mais dès qu'on parle de nature, c'est ne pas se mettre dedans, c'est la grande différence avec vivant. Bref, ces pionniers, un peu malins, un peu roublards, ont décidé de combattre le mal par le mal et d'expliquer aux décideurs que la nature, qu'on néglige tellement, nous rend des services écosystémiques qui sont calculables, qui sont quantifiables et qu'on peut associer à de l'argent puisqu'il n'y a que ça qui fait tourner le monde.
Après, c'est assez efficace. Je dois avouer que quand on met des chiffres sur ces fonctionnalités, tout de suite, quand même, il y a des oreilles qui se tendent. Donc, c'est efficace.
Et ceux que ça blesse, et c'est là que je dis que c'est un peu de la tétrapilectomie, mais je les respecte parce qu'ils sont autrement plus sages et renseignés que moi sur ces sujets. Mais ceux que ça blesse, c'est ceux qui disent ou qui ressentent que faire ça, c'est encore chosifier le vivant, c'est encore le domestiquer, c'est encore l'asservir et encore lui soutirer des services. Donc c'est à ce niveau-là que ça coince. Et d'ailleurs, l'IPBES, tout le monde connaît le GIEC, mais personne ne connaît l'IPBES. C'est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, l'IPBES. C'est un organisme international qui élabore toutes sortes de rapports qui nous aident à nous repérer dans la sixième extinction de masse en cours. Et bref, l'IPBES, dans ses dernières réunions, recommande plutôt d'utiliser cette nouvelle expression, les contributions de la nature. Ce qui est sensiblement différent. Je redis que ça fait un peu tétrapilectomie, il y a plein de gens à qui ça va passer au-dessus de la tête, mais tout dépend de la façon dont on s'envisage et dont on envisage le vivant autour de nous. J'ai fait cette distinction entre nature et vivant. En effet, il y en a qui vont dire qu'on s'en fout, que c'est la même chose, idem pour biodiversité. Pourtant, chacun de ces trois mots recouvre des réalités qui sont différentes et qui en disent long sur ton appréciation du monde et de comment tu vis dans ce monde. Tu vois, est-ce que tu es cette espèce d'être qui a pignon sur rue et qui a le droit de vie et de mort sur tout le vivant qui l'entoure? Dans ce cas-là, tu vas parler de nature. Est-ce que tu considères que tu en fais partie? Dans ce cas-là, tu vas plutôt parler de vivant. Ou est-ce que tu fais des bilans comptables et des choses assez technocratiques? Et dans ce cas-là, tu vas parler de biodiversité, qui est un terme un peu critiqué pour ça aussi, si tu veux. C'est vrai que c'est un terme qui est très associé à des pourcentages, à des noms, etc. Donc c'est un terme qui est plus froid que vivant, qui est un mot que nous a offert... Enfin, en tout cas, que propose Baptiste Morisot et qui, en ce moment, enfin, tous les spécialistes dans mon genre, enfin, je me retire parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais tous les gens comme moi, en tout cas, tous les gens qui s'intéressent préfèrent parler aujourd'hui de vivant pour les raisons que je viens de dire.
Juste un petit exemple de contribution du vivant. La capacité d'épuration des zones humides fournissent, par exemple, un service évalué à 2000 euros par hectare. Cette idée de service écosystémique, ça me fait penser un peu au businessman dans Le Petit Prince. Je ne sais pas si tu vois ce businessman, c'est un gros monsieur avec un cigare et il se revendique sérieux. Moi, je suis sérieux, je compte à longueur de journée. C'est un peu un concept pour convaincre les plus cartésiens de la planète de protéger ce vivant. C'est assez efficace quand même, malgré tout. Quand on parle dessous, ça parle tout de suite. Mais on rappelle, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Très rapidement, parce que le temps défile, Marc Mortelmans, est-ce que tu peux nous partager un chiffre parmi les chiffres de ton livre pour attester à quel point on est en train de tout éradiquer sur la planète ?
Il y en a beaucoup. J'en ai dit un tout à l'heure. L'ensemble de l'humain et de tous ces animaux qu'il élève dans des conditions horriblissimes pour ses besoins, voire son amusement, représente 95% des mammifères sur Terre. Donc ça dit tout. Mais ça, j'ai déjà dit.
En lien avec cette même étude dont tu parles, j'ai vu qu'il y avait la masse des chiens sur Terre est aussi importante que la masse de tous les mammifères terrestres. Ouais. Et je trouve ça juste incroyable. Ouais. Je me dis, mais c'est fou.
La masse des vaches explose celle de toutes les baleines réunies. Mais je pense que les chiffres les plus impressionnants que j'ai envie de te donner, de donner à celles et ceux qui nous écoutent, je les dis maintenant, en fait. Et c'est, pour le coup, c'est le cœur des conférences que je fais autour de ce livre. C'est en fait, si on pesait tout ce qui vit sur Terre, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat de ce qu'on appelle la biomasse? Et ça, je trouve, c'est effarant. Enfin, si je te pose la question, tiens, on va voir, on va sourire.
Bah, j'ai les chiffres.
Vas-y.
J'ai vu dans ton livre, et ça m'a... j'ai trouvé ça incroyable, qu'en 2020, la biomasse anthropique, donc créée par les humains, est égale à la biomasse vivante. Et qu'en 2040, si on continue comme ça, elle sera le double. Tout ce qu'on va créer en tant qu'humain sera le double de la biomasse. Donc en fait, on n'a plus une terre bleue ou une terre verte. On a une terre grise de nos constructions d'humains. Ouais. Enfin, si je peux me permettre d'être un peu dramatique. Et je trouve ça assez incroyable, en fait.
Ouais. Alors effectivement, tu as dit un autre chiffre important. En 2020, il y a un cap qui a été franchi dans l'histoire de l'humanité. L'ensemble de tout ce qu'on construit, nos bâtiments, mais aussi nos téléphones portables, le pull que tu portes, le micro avec lequel on enregistre, etc., etc., etc. La masse de tout ce qui est fabriqué, de tous les objets fabriqués par l'humain, de toute leur construction, dépasse la biomasse de tout le vivant. Et dans tout le vivant, il y a tous les arbres, il y a tous les coraux, il y a beaucoup de choses, tu vois.
Et il y a nous aussi.
Qui sont très lourdes. Et il y a nous aussi. Donc, Mais les chiffres que je voulais donner,
ouais, dis-moi,
c'est que si on s'interroge par groupe du vivant, eh ben, ce qu'il y a de plus lourd sur Terre, de très loin, ce sont toutes les plantes. 83% du vivant, de la masse du vivant, ce sont les plantes. 12,5-13%, ce sont toutes les bactéries, dont les 2% qu'on a tous les deux dans nos ventres, notre fameux microbiote dont on parlait au début de l'émission. Et ce qui est fou, alors ensuite, tu vois, ça continue à baisser, il me semble qu'il y a 6% de champignons, c'est énorme. Après, il doit y avoir les arthropodes, beaucoup, bon, j'ai pas tous les chiffres en tête. Et ce qui est fou, c'est que l'humain, plus tous les animaux en fait, parce qu'on est évidemment des animaux, pèsent 0,4% du vivant. Ben, je pense que tout est dit. 83% d'arbres, 0,4% d'animaux. C'est quand même fou. Bactéries, tu vois, donc, que personne ne voit jamais, donc, que tout le monde ignore tout le temps, 13% de tout le vivant.
J'ai appris ça dans ton livre, ouais. C'est impressionnant. Tu réponds quoi aux gens qui disent que c'est la faute des Chinois et des Indiens ?
Que quoi c'est la faute ?
Que tout ça, que de toute façon, ouais, la France, on pèse pour rien, ça sert à rien d'agir, c'est la faute...
Bah, je pense que ça sera un peu l'expression clé de notre enregistrement. C'est vraiment ne pas avoir le plan d'ensemble, la fameuse bigger picture en tête. Et je trouve que les Asiatiques en général, que ce soit les Indiens ou les Chinois, ont bon dos. Si je prends, tu vois, un exemple pour montrer à quel point les Européens sont donneurs de leçons et hypocrites, tout comme le reste des Occidentaux, hein, je pense aux États-Unis aussi, tu m'entendras jamais les qualifier d'Américains, parce que j'ai vécu 6 ans au Chili, et un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est « mais et nous, on est quoi ?» Mes amis chiliens m'ont dit, quand tu dis que les Américains s'appellent Américains, en parlant des États-Unis, nous on est quoi ? Bon bref, tout ça pour dire que, je prends un exemple, en matière de finning, c'est-à-dire de charcutage des ailerons de requins, tu sais, ce truc hyper cruel qui consiste à pêcher des requins, à leur couper à vif les ailerons et les rejeter vers une agonie atroce dans l'eau, enfin là encore, ça, enfin, tu vois, c'est absolument terrifiant, eh bien il y a un chiffre extraordinaire qui dit que plus de 40% des ailerons de requins qui sont vendus sur les grandes places asiatiques que sont Hong Kong, Singapour et d'autres, proviennent de l'Union européenne. C'est quand même fou, tu vois. Ces Européens dont nous faisons partie, dont je fais partie, alors la France s'est un peu calmée en la matière, les champions de ça, ce sont les Espagnols. Et tout ça se fait avec des subventions européennes, en plus, qui a certes édicté, alors après je ne vais pas trop rentrer dans les détails, tu as déjà dit qu'on avait dépassé le cadre de l'émission, mais il se trouve que l'Européenne a interdit le finning. Donc ce que font les Européens qui sont toujours malins, et les Occidentaux en général, et même les humains en général, ils contournent cette règle. En fait, la loi oblige les bateaux à ramener les requins fins attached à leur corps, c'est-à-dire les ailerons attachés, c'est-à-dire entiers. En gros, tu peux en stocker moins dans le bateau, parce que tu vois, le cynisme fait que c'est ça le finning, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'on les rejette à l'eau, c'est pour que ça prenne moins de place et entasser les ailerons dans les cales. Donc tu vois, une manière qui a été trouvée pour réduire les ravages, c'est ça. Mais en fait, ce que font les Européens, c'est qu'à peine ils arrivent à quai, en fait, eh ben, tout de suite, ils leur coupent les ailerons et ça part sur les places asiatiques, tu vois. Donc, il y a toujours des moyens. Et donc, les rotations sont supérieures, ce qui fait que cette règle a été contournée. Donc, elle est inefficace. Cet exemple, à lui seul, raconte le cynisme de l'humain en général. Hein, et bien sûr que l'Européen ne vaut pas mieux que le Chinois, qui ne vaut pas mieux que l'Indien et qui ne vaut pas mieux que l'États-Unien.
On a tous notre rôle à jouer dans cette grande transition.
Y compris celles et ceux qui nous écoutent, tu vois. En fait, ce qui m'énerve, c'est toujours que ce soit la faute de l'autre. En matière de jardin, et ça pour le coup je suis pas le seul à dire ça, hein, de déplacement, de prendre l'avion, de tes vacances, de ce que tu bouffes, de comment tu te déplaces, des vacances que tu choisis pour toi et tes enfants, il s'agit pas de s'auto-flageller, tu vois, mais bien sûr que chacun peut et doit faire attention à ce qu'il fait, pour le coup je suis pas le seul à le dire, mais tu vois il y a vraiment un truc qui m'énerve, c'est le fait de dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, et pourquoi pas le Chinois qui est si lointain et si mal connu.
En introduction, je parlais de ces heures où on se laisse guider par ta voix et par tes podcasts. Tu as fait toute une série sur les requins qui sont vraiment passionnantes. On apprend plein de choses, notamment qu'il y a des requins en Méditerranée qui vont pas très bien. Et tu as interviewé notamment une association qui les protège et c'est vraiment passionnant.
Aileron, ouais.
Donc je recommande ces podcasts en particulier. Merci beaucoup Marc. La première partie se termine. Une première partie riche d'informations passionnantes sur le vivant et ses difficultés actuelles. Je te dis à très vite pour la deuxième partie sur les actions citoyennes.
Un grand merci à toi. Salut Chloé. Fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo
Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.